Merci François Grosdidier.
Monsieur le Président, chers collègues, je ne ferai pas, comme précédent orateur, mon commentaire sur les résultats des élections d'hier pour dresser une feuille de route. Je ne ferai pas non plus, comme l'orateur d'avant, des annonces ou d'émettre des idées pour le mandat prochain. Je pense que chacun aura des idées pour le mandat prochain et qu'il y aura d'autres moyens de le faire. Mais je voudrais commencer effectivement d'abord par rendre hommage au travail de notre vice-président, Guy Berger, de tous ceux élus et fonctionnaires qui l'ont accompagné. Et je pense que le Metz Métropole peut être très fier de ce bilan et des actions engagées dans les différents secteurs d'activité, dans ces différents domaines de compétences. Alors c'est vrai qu'on pourra toujours dire, comme le disait un collègue, que le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Il n'est jamais complètement plein. Et en citant d'ailleurs le référent vert, M. Darbois, mais qui lui est un verre entier, lui, et qui effectivement a pu, et je vais y revenir dessus, émettre quelques regrets, notamment sur une ambition messine de l'écoquartier qui finalement s'avère assez décevante. Je voudrais évoquer deux points, l'habitat et la qualité de l'air, les transports sur l'habitat. Ouais, d'abord, il y a eu l'abandon clair et net de l'ambition d'écoquartier, alors que certaines autres villes ou métropoles ou agglomérations l'ont menée. Alors, je sais quelles ont été les pressions, les demandes des professionnels expliquant que la RT 2012 était déjà suffisante, que c'était déjà assez difficile d'y accéder pour demander que nous revoyions, que la collectivité revoie à la baisse ses objectifs. Si au moins ça s'était répercuté sur les prix de vente, on aurait pu le jouer positivement, mais il s'avère que ce n'est tout de même pas tout à fait ça. Donc on peut émettre quelques regrets. Ensuite, sur l'approche qui est faite, et là on touche à un débat de fond. Moi je suis très réservé, on a souvent ces discussions au SCOT, on les a ailleurs, sur la thèse aujourd'hui présentée comme écologique, que je trouve assez technocratique, qui exige au nom de la contrainte, des nécessités environnementales, la massification et la densification. Je réservais là-dessus, je relis parfois, c'est peut-être un peu passé, les idées de Jean-Marie Pelt, Roger Klein, l'écologie urbaine, ce n'était pas la densification et la massification. C'était un urbanisme qui était beaucoup plus organique que mécanique, un urbanisme dans lequel la nature était présente. Je n'ai pas l'impression qu'en ayant rehaussé de quelques étages le quartier de l'amphithéâtre, en construisant quelque chose d'extrêmement haut sur Montscourt, on répond forcément au principe de l'écologie urbaine. Et comme toujours dans notre pays, on passe d'un excès à l'autre, qui a été celui de la surconsommation du foncier agricole, nous sommes bien d'accord, auquel les SCOT ont voulu mettre fin, un effet complet, mais par un effet de balancier, on arrive à une situation complètement inverse, où je me suis retrouvé d'ailleurs dans la ville de Voipy, à mettre une décennie à démolir des tours ou à fractionner des bars, pour qu'on me demande quelques années plus tard, finalement, de reconstruire des étages et de redensifier à nouveau. Sur l'habitat aussi, sur la performance énergétique, nous n'avons plus été aussi exigeants, qu'il s'agisse de nos propres bâtiments ou de nos relations avec les bailleurs ou les constructeurs dans les années 2000, à l'époque où s'appliquait la RT 2007. Nous financions davantage lorsque nous allions au-delà de la réglementation thermique. Il y a eu ce bond de la RT 2012, mais nous sommes effectivement en 2019 et nous nous sommes arrêtés à 2012 sans exigence supplémentaire sur les autres opérations et en abandonnant finalement l'ambition de l'écoquartier. Ils auront le paquet à mettre et ça, Metz Métropole est forcé de pallier aux carences de l'État depuis maintenant une décennie sur la rénovation thermique, notamment du parc locatif social, et nous accompagnons, ce qui est positif, l'ANAH dans la rénovation du parc privé, ce qui est impératif. Nous pouvons simplement regretter l'insuffisance des crédits d'État, et comme notre effort se limite à l'accompagnement, et nous n'avons pas à nous substituer complètement à l'ANAH, mais il aurait été souhaitable qu'on aille plus loin, mais pour cela, il faudrait que l'État aille plus loin. Et ces dernières années, on va voir si le choc des Européennes et les annonces du comité de défense écologique seront suivies d'effet, voir si effectivement on remonte le niveau des interventions pour la rénovation thermique sur le parc privé. Quoi, globalement, on va dire on a très cher à Metz, très dense et pas très performant. Terminerai sur les transports, parce que effectivement, nous avons dans notre agglomération, dans notre métropole, sur le sillon mosellan, un vrai problème de la qualité de l'air. Je ne reprendrai pas complètement le débat, mais beaucoup, on s'est tous plantés. À un moment, la priorité était à la baisse du CO2. Effectivement, avec le bonus-malus automobile, on a totalement priorisé sur les CO2. Le CO2, les constructeurs des automobiles nous expliquaient qu'il n'y avait aucun problème de particules avec les pots catalytiques. Il s'avère en fait que, comme toujours, on passe d'un extrême à l'autre. C'est l'effet de balancier, et qu'on aurait dû conserver l'essence, si possible en hybride avec l'électrique ou passer à l'électrique en ville, et réserver essentiellement, comme c'était le cas avant, le diesel sur les routières, parce qu'à la campagne, effectivement, le diesel fait moins de CO2 et les particules se dissolvent, alors qu'en ville, il n'y a pas cette possibilité de dissolution et le diesel est à proscrire. À cet égard, il doit bien sûr y avoir comme priorité de dédieseliser même le Métis et l'ensemble de nos transports en commun. Fallait-il attendre et se dire on se donne plus de temps pour avoir les véhicules? Je dirais non. Je te raconte maintenant, on a l'avantage d'avoir un système qui est assez souple. À ceux qui, à l'époque, défendaient le tramway, je reviens aux années 2000 dans cette séance, et que je défendais contre le tram le bus souhait, le transport en commun en site propre tel que nous l'avons fait, c'est bien parce que ça fait, nous ne sommes pas prisonniers d'une technologie, que nous avons le site propre et que ça permet de changer de véhicule, et ça nous permettra, sans changer l'infrastructure, et bien de passer à des véhicules qui soient hybrides électriques totalement électriques. Ça va vraiment être une priorité, mais j'arrêterai là sur les priorités, parce qu'il y aura tout le temps, je crois, dans les mois à venir, de parler de ce qu'il faut faire dans le mandat futur.
Voilà, merci, et d'autant que nous sommes aussi déjà engagés sur la discussion du point suivant. J'ai bien l'impression, mais Dominique, vous voulez ajouter un élément.
J'ai quelques remarques à faire, parce que c'est tellement intéressant que il faut pouvoir répondre. Le Métis est au gasoil. Bon. Et quelqu'un qui a dit ça?
C'est électrique d'abord.
Voilà. Eh bien non, tous les moteurs qui font avancer le Métis sont électriques. Voilà, tout le monde n'est pas obligé de le savoir. C'est que, bon, ça fait longtemps et ça a mis du temps à rentrer dans les têtes. Il y en a certains qui n'ont pas encore compris. Mais effectivement, tous les Métis sont électriques. J'y peux rien, la réalité, elle est là. Simplement, il est vrai qu'il n'y a pas d'électricité qui soit produite sans une source d'énergie différente. Il n'y a pas d'électricité qui vient nulle part. Soit l'électricité, elle est nucléaire, soit elle est solaire, soit elle est hydraulique, soit elle est issue de sources carbonées. Et il se trouve que les Métis a sa source de création d'électricité qui est embarquée. Voilà. Mais soyez rassurés, il n'y a pas de véhicule électrique qui ne fait pas appel à une source quelconque pour produire l'électricité. Parce que des mines d'électricité, ça n'existe pas. Des lieux où on stocke l'électricité qui a été produite par je ne sais pas quoi, ça n'existe pas. Il y a toujours, alors c'est un principe de thermodynamique, tout le monde n'est pas ingénieur, il y en a qui sont comptables, chacun fait son métier. Mais il faut bien comprendre que l'électricité, ça ne se stocke pas facilement et ça n'existe pas en magasin. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut ajouter que chaque fois qu'un Métis roule, il remplace plusieurs voitures, beaucoup de voitures. Et donc non seulement L'hybridation du métis, ça fait une économie de l'ordre de 25% de CO2. 20-25%, ça dépend. Mais effectivement, ça va jusqu'à 25%. Eh bien, si c'est 20, c'est déjà bien, premièrement. Et deuxièmement, quand il y a beaucoup de monde dans un métis, il y a moins de voitures. Il y a moins de voitures qui circulent. Et donc, c'est les économies de pollution, de CO2, de particules, etc., très importantes. Donc, voilà. Et troisièmement, et j'en aurais terminé là sur le métis, il faut mettre les points sur les i. On a du mal, j'attends toujours les 9000 pétitions. Hein. Bon, parce que maintenant, on est entre nous. Hein. Alors, les 9000 pétitions, des gens qui voulaient sauver la place de la gare, qui était magnifique, parce qu'elle datait du Moyen-Âge, etc. Bon, en fait, toutes les lignes métis sont pré-câblées.
C'est ce que j'ai dit.
Il y a trois systèmes de tubes qui sont installés de façon à ce qu'on puisse faire
du
biberonnage arrêt par arrêt, comme ça existe maintenant dans certaines villes, j'en ai vu fonctionner, mais comme ce n'était pas encore fiable, pourtant ça existait déjà, mais ce n'était pas encore fiable, au moment où on l'a construit, on a pris cette solution-là et on a pré-câblé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'ouvrir les voiries pour faire du tout électrique avec une ressource d'électricité qui, bien sûr, dépendra du nucléaire ou dépendra d'autres moyens, parce que vous savez qu'en France, il y a la fraction qui dépend du solaire et de l'éolien est extrêmement faible, c'est quelques pourcents. Alors, mon deuxième point, c'était, et il y en a que deux, c'est où est-ce qu'on peut encore gagner beaucoup. On parlera du PDU après, malheureusement je suis obligé de partir, mais on parlera du PDU après, et j'exposerai que la ville de Metz déposera probablement un amendement sur l'affaire du parking qui est à Longeville, qu'on a déjà parlé ici, hein, pour aider le Saulcy à fonctionner sans obligatoirement rentrer dedans en voiture. Mais je n'aurai pas l'occasion, je suis obligé d'aller au FCMS et c'est important aussi. Hein. Mais je voudrais dire que le seul vrai point hyper important, maintenant qu'on a bien avancé sur les déplacements doux et sur les transports en commun, c'est celui du logement. C'est évoqué tout à l'heure par Mme Kosik, c'est extrêmement important. Nous avons des propriétaires bailleurs qui se comportent très mal, qui n'isolent pas leur immeuble, qui les chauffent à l'électricité dans des conditions déplorables. Et en général, ça tombe sur les gens les plus défavorisés et c'est extrêmement sérieux comme problème. Deuxièmement, c'est les copropriétés dégradées. On s'en occupe relativement à Metz, mais il y en a pas mal. Et c'est en train de monter malheureusement. Nous avons besoin de donner des coups de main à des gens qui n'arrivent plus à faire face. Et troisièmement, c'est un sujet, mais comme il y a beaucoup de parlementaires dans la salle, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement important. C'est les copropriétés, mais les propriétés tout court. Il y a des gens qui disent, à mon âge, je ne vois pas pourquoi je prendrais la peine d'isoler ma maison ou mon immeuble, ma portion d'immeuble, le jour où il faut voter en copropriété, parce que je suis déjà âgé. Et comme je suis déjà âgé, eh bien, le jeu n'en vaut pas la chandelle, j'ai fait le calcul, etc. Et j'en ai rencontré plein des gens comme ça. À vrai dire, je le dis pour les parlementaires, il faut trouver des moyens d'hypothéquer pour des raisons d'isolation d'immeubles et maisons, mais indépendamment des personnes qui sont dedans, mais sur l'immeuble lui-même. C'est-à-dire que l'immeuble puisse être vendu, l'appartement puisse être vendu avec transmission de cette hypothèque. Ça se fait, hein, ça existe. De façon à ce qu'on ne soit pas obligé de faire du cas par cas en tenant compte de la frilosité des banquiers par rapport au fait qu'une personne relativement âgée, mettons 75 ans, 80 ans, eh bien on lui dise, on ne vous prendra jamais un sou. Voilà. Alors, c'est très important. Et j'ajoute que la contribution climat-énergie, c'est-à-dire les taxes que l'État nous fait payer sur les carburants, sur au motif du climat, eh bien, elles servent à autre chose. Elles sont détournées à l'intérieur du budget de l'État, alors qu'il faudrait qu'il y ait une partie qui soit fléchée vers nous. La question a été posée, mais moi je donne la réponse. Le fléchage d'une partie de la contribution climat-énergie vers les collectivités locales, les intercommunalités, en particulier pour l'isolation des logements, c'est la solution pour franchir une nouvelle étape, parce que sinon on n'y arrivera pas.
Bien, simplement, j'ai bien compris que tu veux partir, oui, pour dire que nous n'aurons pas à déposer d'amendement, puisque une fois que le PDU est adopté ici, on envoie dans les communes qui apportent évidemment leur contribution sur et leurs critiques, enfin les apports qui viennent enrichir encore
tout,
bien évidemment abonder, puisque c'est un work in progress comme on dit en bon français. Voilà, alors Guy, pour donner quelques éléments.